Aujourd'hui, retour au monde antique, au mythe grec et aux grandes figures tragiques qui continuent de nous inspirer, de nous interpeller et même de nous faire un peu peur. Œdipe, Antigone, Électre, Oreste. Cela nous parle et nous essaierons de savoir pourquoi. Patrick Lévrier, que tout le monde connaît, je l'espère, professeur de lettres du temps de son activité et notre honorable et très aimé vice-président, oui, très aimé, va nous présenter ce sujet, mythe et tragédie en Grèce ancienne. Patrick, nous t'écoutons.
Merci de la présentation. Vous entendez bien ? Oui. Donc une présentation qui est presque une introduction, puisqu'il s'agit de partir du mythe pour arriver à la tragédie qui actualise le mythe, qui le dramatise et qui lui donne ensuite cette portée universelle que l'on connaît. Donc on partira d'abord d'une définition simple du mythe qu'on trouve dans le Robert, qui nous servira de point de départ. Selon le dictionnaire Robert, le mythe est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, des dieux, des demi-dieux, des héros, des animaux, des forces naturelles, qui symbolisent des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine. Donc une définition déjà qui fait apparaître deux niveaux, un niveau qui est celui du récit, et un autre qui est celui de la signification. Mais on partira d'abord du récit. Le mythe se donne comme un récit, et ce récit est de tout temps la façon d'expliquer comment les choses, comment les êtres existent et sont venus au monde. Alors que la science, la philosophie procèdent de manière déductive, en enchaînant les causes, le mythe, lui, se contente d'être un récit. Il raconte ce qui est, à travers ce qui a été. Et ce récit se suffit à lui-même, puisqu'il se justifie par sa propre énonciation. On dit que, la muse dit que, on rapporte que, et cette pérennité du mythe contribue à le crédibiliser, à lui donner du sens. Voilà évidemment qui s'oppose à la notion même de raison fondée sur le doute, ou à la science qui se veut investigation. Qui parle dans le mythe ? Eh bien, le mythe n'a pas d'auteur. Il est anonyme, il est collectif, il vient du fond des âges, et c'est en cela d'ailleurs qu'il est fabuleux. Fabuleux a deux sens. On oublie un peu le sens premier, le sens étymologique, c'est parler. Parler. Donc, ce récit raconte, ce récit parle, il est anonyme, il est collectif, il est la transmission d'une vérité qui, de tout temps, se manifeste. Mais en même temps, autre sens de fabuleux, il renvoie au religieux, il renvoie à la croyance. Ce sont d'ailleurs les pères de l'Église qui ont fait donner ce sens de fabuleux au sens de religieux, de croyance, parce qu'eux faisaient basculer les mythes grecs dans l'erreur, alors qu'ils étaient censés détenir la vérité. Donc le mythe est anonyme, le mythe est collectif, le mythe est religieux, et en ce sens-là, il donne un sens au monde, mais surtout, il donne une signification à une société. Dans cette croyance qu'est le mythe, une société se reconnaît. Voilà pourquoi on distingue le mythe cosmogonique, par exemple, qui explique comment le monde est advenu, comment du chaos on est arrivé au cosmos. Le mythe peut être héroïque, comment dans ce cosmos un peu désordonné qui a surgi, des héros vont se manifester et éventuellement donner un ordre. Et enfin, le mythe peut être fondateur, et c'est en ce sens-là qu'il raconte l'origine présumée d'une société. Donc, je reprends ces trois caractères. Le mythe est anonyme, le mythe est oral, le mythe est collectif et religieux, une société se reconnaît. Voilà pourquoi il a un caractère fédérateur, mobilisateur, éventuellement on peut se battre au nom d'une croyance. Mais en disant cela, on souligne l'ambivalence du mythe. Parce que s'il a ces caractères mobilisateurs, fédérateurs, s'il est une croyance, eh bien, il est à la fois vrai et faux selon le point de vue dont on se place. Si on se place dans la croyance, à l'intérieur de cette communauté, il est vrai. Si on se place à l'extérieur, si on le regarde de l'extérieur, il est faux. Donc le mythe a cette ambivalence, c'est que selon le point de vue dont on le regarde, il est à la fois vrai et faux. Alors on pourrait penser qu'en Grèce, qui est le lieu de la raison, la Grèce donc où apparaît le logos, où apparaît le miracle grec, on pourrait penser qu'en Grèce, le mythe allait tout simplement disparaître, puisque la raison le supplante, la raison donne une explication et la raison n'a pas besoin de ces récits. Par exemple, dans la République, Socrate tourne en dérision les mythes grecs, tourne en dérision les croyances. Ça lui a peut-être coûté la vie d'ailleurs, mais se demandant pourquoi on attribuait à Zeus et à d'autres dieux des aventures aussi extravagantes. Ça n'est pas possible qu'un dieu créateur ait pu se comporter de cette façon. Donc, on pourrait penser que ce qu'on a appelé le miracle grec, l'apparition de la raison, de la démocratie, de la justice, cet ordre nouveau qui est celui de la cité grecque, on pourrait penser que ça allait balayer le mythe au titre, comme le dit Socrate, de ces extravagances, de ces fantaisies qui sont un défi à la raison et à la vérité. Or, il n'en a rien été. Il n'en a rien été, et c'est un autre paradoxe du mythe, c'est que au moment où le miracle grec s'affirme, au moment où la cité grecque se consolide, eh bien, le mythe a la vie dure, le mythe trouve une vitalité nouvelle, une expression nouvelle, tout en se métamorphosant. Donc, au lieu d'être rejeté par cette émergence du logos, de la cité, le mythe va trouver sa place et son expression dans ce nouveau cadre. Il est même lié à l'affirmation de la démocratie et de la cité. Alors, on regarde cette carte, et vous voyez justement le cadre dans lequel ça se situe. Quelques lieux sont emblématiques. Athènes, évidemment, qui est le lieu où ça se passe. Mais les mythes dont on va parler concernent Thèbes, concernent Delphes, concernent Argos. C'est dans ce cercle-là qu'il faut considérer l'apparition de la tragédie. Alors pourquoi et comment? Eh bien, à travers des genres littéraires qui sont l'épopée et la tragédie. Le mythe, au départ, est anonyme, collectif, oral, religieux. La tragédie s'en empare, c'est-à-dire qu'il porte la marque d'un auteur, d'une époque. Il est repris et transformé, aussi bien dans l'épopée que dans la tragédie, mais c'est surtout dans la tragédie ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en même temps, se produit un basculement, puisque le mythe religieux, sans cesser d'être religieux, devient un mythe politique. Les dieux ne désertent pas la tragédie, au contraire, ils peuplent l'espace tragique, mais de façon différente, de façon nouvelle, en établissant avec les hommes de nouvelles relations. Excusez-moi, je vais boire un peu. Donc la tragédie reprend le mythe, mais elle le reprend comme un matériau auquel elle va donner une forme. Alors cette forme, c'est évidemment qu'elle le dramatise, et en le dramatisant, elle en fait une représentation, au sens où elle le rend présent, et une tension, puisque c'est sous la forme d'un conflit entre les hommes et les dieux, entre les hommes et les hommes, que cela se passe. Et cela dans le cadre d'une cité qui constitue cette relation nouvelle entre les dieux et les hommes, puisque les dieux sont là, mais s'effacent, et laissent aux hommes la gestion de leurs propres affaires. On a pu dire ainsi que le mythe politique était la charpie du mythe religieux, ce qui est vrai et pas vrai, puisqu'il reste beaucoup de religieux dans ce mythe politique qui s'élabore. Donc, on arrive ainsi à la tragédie en Grèce, Et je vais citer Jean-Pierre Vernant, qui est le grand spécialiste de ces sujets-là, notamment mythes et tragédies en Grèce, hein, je m'en sers beaucoup. Vernant écrit « La tragédie prend naissance quand on commence à regarder le mythe avec l'œil du citoyen. » La tragédie commence quand on commence à regarder le mythe avec l'œil du citoyen. C'est un genre littéraire original, c'est un nouveau type de spectacle, et qui se fait dans un contexte religieux, puisque c'est dans le système des fêtes publiques qu'on appelait les Dionysies, et qui étaient consacrées, par conséquent, à Dionysos. Mais c'est aussi une étape dans l'affirmation du citoyen responsable. La tragédie participe à l'éducation civique des citoyens. Alors, elle l'est d'abord comme un cérémonial. C'est un cérémonial, hein, et le mot tragédie a une étymologie qui est le chant du bouc. Et cette étymologie renvoie au sacrifice, renvoie au culte de Dionysos, Dionysos qui est le dieu des profondeurs, le dieu de l'ivresse, le dieu du délire orgiaque. Hein. Ça donne d'autres tragédies, notamment chez Eschyle. Hein. Mais c'est le culte de Dionysos. C'est donc bien une origine religieuse qui constitue la tragédie, avec le personnage collectif qui est le cœur. Hein. Le cœur et d'origine religieuse, avant la tragédie, il y avait déjà le cœur qui chantait, qui priait, qui exprimait les attitudes de l'homme devant les dieux. Mais à ce cœur vont se joindre des personnages, et des personnages qui s'imposent peu à peu et vont relayer le cœur au second plan, sans le faire disparaître, puisque c'est toujours dans une relation avec lui que s'établit le spectacle. Eschyle fait ainsi apparaître deux personnages, Sophocle trois. Alors quand je dis personnage, je le dis au sens étymologique, le masque. Parce que derrière un masque, le même masque peut être utilisé par différents personnages. Et Eschyle, en introduisant donc deux personnages, crée ainsi le dialogue. Donc on passe d'une cérémonie univoque, en quelque sorte, où le cœur s'adresse aux dieux, à une cérémonie plurivoque, où les personnages dialoguent entre eux. Et on a l'alternance ainsi de deux discours. D'un côté, le discours lyrique, religieux du cœur, donc des parties chantées, et de l'autre, le discours, le dialogue des personnages, qui lui se fait dans un discours proche de la prose. Et du coup, eh bien, ils débattent, ils s'opposent, ils s'affrontent, mais le public se retrouve dans le langage employé, alors que le discours religieux du cœur sublime évidemment ce qui a été dit. Le résultat de cela, c'est que le héros qui est sur scène n'est pas seulement le héros exemplaire, non, il n'est pas le modèle auquel on se réfère, il est un problème. Il est un problème, et c'est ce problème qui renvoie au problème de la cité, au problème de tous les êtres humains, que la tragédie nous fait assister. Autre aspect, le masque tragique, hein, puisque ce masque est à la fois un porte-voix et en même temps il porte l'expression du personnage. Et les cothurnes, évidemment, qui grandissent les personnages, hein, et les font paraître beaucoup plus grands et visibles en même temps, évidemment, aux yeux du public, puisqu'il y avait jusqu'à 15 000 à 17 000 spectateurs à ces tragédies. Donc, un cérémonial, hein, qui est d'origine religieuse et qui garde cette dimension. Même aujourd'hui, le théâtre garde cette dimension quasi-religieuse. Deuxième point, un cadre politique et géographique. Un cadre politique et géographique, ce cadre, c'est évidemment Athènes. C'est là que ça se passe, évidemment. C'est là que le théâtre prend naissance. Mais évidemment, il est fait référence aux mythes qui circulent dans l'ensemble de la Grèce. Et un cadre spatial, je vous laisse regarder, que voici, qui est le théâtre de Dionysos, hein, qui se trouvait proche de l'Acropole. Cadre spatial, hein, vous voyez sa dimension. On a une aire circulaire appelée orchestre, qui est le lieu où l'on danse. Elle est entourée de gradins qui forment le théatron. Le théatron, c'est le lieu d'où l'on voit. Et au centre de l'orchestra, se trouve l'autel de Dionysos. Et plus tard, avec Eschyle, Sophocle, lorsque les personnages apparaissent, il y a la Skéné, qui est la scène, qui est insérée dans le drame, et avec un décor de fond, qui est ici le portique, même le temple, hein, qui sert d'arrière-plan, en quelque sorte, et un espace que les tragédiens, que les auteurs tragiques sauront utiliser, puisqu'ils font venir des événements merveilleux ou horribles, par exemple, quand les Erinnies, qui sont les déesses de la vengeance, de la haine, se manifestent, elles se manifestent en sortant du portique et en semant la panique parmi les spectateurs. De la même façon, quand les dieux apparaissent, c'est toujours par la grande porte, donc par le portique, par le temple, qu'ils surgissent. Donc on voit ainsi s'affronter les différentes forces. Autre exemple, et le plan le montre, pour montrer à quel point le théâtre exprime la vie de la cité, Eschyle, quand il écrit les Perses, a su tirer parti de cette configuration. Parce qu'il raconte la victoire des Grecs sur les Perses, et notamment sur Xerxès. Et son grand génie, quand il écrit les Perses, c'est de représenter ce drame sous le regard de ses ennemis. Ce sont les Perses qu'on voit dans le cœur, ce sont les Perses qu'on voit sur la Skéné, qui expriment d'abord leur assurance, puis leur inquiétude, puis leur désarroi, lorsque on annonce la défaite de leurs armées, et surtout de leur flotte. Et le clou de ce spectacle, c'est quand le fantôme de Darios apparaît pour reprocher à Xerxès sa démesure, parce qu'il a osé affronter Poséidon en créant un pont de bateau, autrement dit, un acte de démesure, puisqu'il a défié le dieu de la mer. Donc, les Grecs assistent à la déroute de leurs ennemis. Donc, le théâtre, ici, a une fonction de célébration collective d'une victoire qui a permis aux Grecs de s'affirmer contre les Perses. Donc, un cérémonial, un cadre politique et géographique que manifeste ça, et puis la démocratie. Auparavant, je vous montre un masque de théâtre tragique, qui est un peu postérieur, mais on peut imaginer qu'ainsi il exprime, vous voyez, les sentiments du personnage, en même temps que la voix sert de porte-voix. Et puis une reconstitution qu'on a ici, c'est une Antigone de Sophocle, qui est représentée, c'est dire à quel point la tragédie grecque continue à être actuelle, qui est représentée le 21 novembre 1893, vous voyez, et on voit justement l'autel de Dionysos, on voit le chœur ici, composé de vieillards, les personnages, on peut penser que c'est Créon et Antigone, et en arrière-plan, évidemment, le portique qui sert de décor. Oui. Donc, voilà comment se présente le théâtre grec. Et il a aussi un temps. La tragédie ne dure qu'un temps. Là aussi, si on peut comparer avec la tragédie classique française qui n'a duré qu'un temps. C'est celui de la démocratie. Elle correspond à ce qu'on appelle le siècle de Périclès. Donc, acte religieux, elle est désormais un acte civique. On est passé du religieux au domaine politique. La cité entière participe au spectacle. C'est un acte civique que d'y aller. Les Dionysies durent plusieurs jours. Et pour un prix modique, le théâtre subventionné existait déjà, puisque c'est pris en charge par l'État. Trois grands poètes tragiques, évidemment, que vous connaissez, Eschyle, Sophocle, Euripide. Eschyle et Sophocle sont... Sophocle est contemporain des deux, puisqu'il a vécu très longtemps. Il a affronté Eschyle, et puis ensuite Euripide. Et c'est à partir de l'année 534 avant notre ère que le spectacle tragique s'est instauré. Donc la tragédie prend ses sujets dans les mythes, mais en prenant des distances à leur égard, Euripide ira jusqu'à faire de la dérision, un peu comme Giraudoux le faisait au XXe siècle, mais en même temps qu'elle les dramatise, elle les problématise, elle confronte les valeurs religieuses anciennes avec l'ordre nouveau qui est celui de la cité. Comment ces valeurs religieuses peuvent-elles s'effacer ou permettre de définir une cité qui, en se constituant, doit créer ses règles, ses lois, son droit. Et dans ces tragédies, on n'y est pas sensible forcément quand on les regarde, mais il y a partout un vocabulaire du droit. Partout, la question du droit est présente. Il s'agit de penser la cité à travers un vocabulaire qui est celui du droit, celui que les hommes élaborent pour s'affirmer comme une démocratie. Ce droit n'est pas figé, il se déplace. Il s'agit en effet, face à une justice divine, d'affirmer une justice humaine. Il s'agit d'affirmer, face à un destin, la responsabilité, la liberté de l'homme, ses choix. Il s'agit aussi de la question du pouvoir, question constante du pouvoir. Quelles sont les limites du pouvoir? Déjà, on a vu comment la démesure était frappée par les dieux. Or, la démesure, c'est souvent la tyrannie. Ça peut être aussi l'anarchie. Comment donc constituer un ordre politique? La tragédie problématise tout cela. Et on le voit notamment, on le verra surtout dans l'Orestie d'Eschyle, comment Athéna donne leur responsabilité aux hommes en leur disant « c'est à vous maintenant de régler vos problèmes » en sachant qu'il y a deux extrêmes qui sont l'anarchie et la tyrannie. Donc la tragédie traumatise cela et il faut se rappeler qu'elle est justement le lieu, Aristote le définissait comme ça, de la mimésis et de la catharsis. Mimésis, ça veut dire représentation, donc on dramatise, on problématise, on confronte, mais catharsis, c'est la purge. On se purge des passions mauvaises. En voyant le mal, donc vous allez voir des choses monstrueuses, hein, je vous prie, mais en même temps, on s'en purge. Oui. Et par des ressorts qui sont la terreur et la pitié. Donc il y a la mise en place d'un spectacle tragique, et on va le voir à travers deux familles qu'on appelle maudites, évidemment, parce qu'elles sont à la fois le lieu où ça s'expérimente et le lieu où ça se vit de façon dramatique, les Labdacides et les Atrides. Alors voici les Labdacides. Alors je vais aller assez vite, évidemment, sur le mythe en lui-même, mais je vais vous donner les éléments du mythe pour voir comment Sophocle, dans Édipe roi, les a problématisés, dramatisés, dans sa tragédie. Donc nous sommes là à la fondation de Thèbes. À la fondation de Thèbes, même si ce sont les Athéniens qui regardent ça. Vous avez Cadmos, hein, qui est marié à Harmonie, qui est la fille d'Arès et d'Aphrodite, donc c'est pas du tout n'importe qui. Hein, Cadmos, qui a une lignée imposante, Polydore, Autonoé, etc. Bon, on retiendra simplement Polydore et Agavé, hein, mais Cadmos est à la recherche de sa sœur Europe, qui a été enlevée par Zeus. Bredouille, il se rend à Delphes, où on lui ordonne de s'arrêter dans sa recherche et de fonder une ville là où l'animal se couchera. Il arrive en Béotie, qui en grec veut dire le pays de la génisse, et en Béotie, il cherche l'eau pour offrir un sacrifice à Athéna. Et là, naturellement, des obstacles se présentent, et c'est notamment un dragon. C'est toujours comme ça, il faut toujours tuer un dragon. Hein, c'est le monstre issu de la terre, c'est le monstre infernal, donc il faut le tuer. Et donc il tue le dragon qui gardait cette source. Et sur le conseil d'Athéna, il sème les dents du monstre. Il sème les dents du monstre, et ces dents, donnent naissance à des géants qu'on appelle les Spartoïs. Spartoïs veut dire les semés en grec. À peine surgi de terre, il menace Cadmos, qui comprend évidemment qu'il est en danger et qui, sur l'instigation d'Athéna, leur lance une pierre. Et comme ils ne sont pas très fins, ils s'accusent mutuellement d'avoir jeté cette pierre et ils s'entretuent, ce qui sauve évidemment Cadmos. Et il en reste cinq, et là, Cadmos se réconcilie avec eux et il construit les murs de sa ville, il construit les murs de Thèbes. Et sa fille, donc, Agavé, épouse un Spartoï, qui est Échion. Et d'Agavé, on a Panté, Ménécée, et Ménécée hein, est le père de Jocaste et de Créon. De l'autre côté, Polydore, qui est en tête pour une fois, hein, Polydore, donc, a pour enfant Labdacos et Laios, et Laios épouse Jocaste, et les deux se marient. Et c'est là qu'évidemment surgit le drame, la tragédie même, parce que l'oracle de Delphes, toujours lui, leur a prédit que leur fils tuerait son père et épouserait sa mère. Donc, la réaction des parents, vous la comprenez, c'est d'éliminer l'enfant à sa naissance. Donc, l'homme chargé de la besogne s'aventure sur le mont Citeron, hein, qui est un lieu un peu emblématique, c'est un lieu sauvage où se rencontrent les forces de la nature, etc. Donc, c'est là qu'il abandonne l'enfant dans la montagne après lui avoir percé les chevilles et les avoir nouées avec une lanière. Mais, d'où son nom d'ailleurs, Oedipe veut dire pied enflé, donc il a toujours cette marque lui, là. Et pour le bonheur d'Oedipe, ou son malheur, je ne sais pas, il rencontre un sujet du roi de Corinthe, et ce berger du roi de Corinthe, qu'il connaît d'ailleurs, sur le mont Citeron, ils font paître leurs bêtes, lui dit, ben, écoute, le roi de Corinthe n'a pas d'enfant, il est désespéré de ne pas en avoir, donne-moi ce gamin, et puis je vais le lui porter. Donc, l'enfant est ainsi sauvé, il est recueilli par le roi de Corinthe, qui s'appelle Polybe, il prend le nom d'Édipe, qui veut dire pied enflé, du moins c'est le premier sens, et le roi l'élève comme son propre fils. Donc le destin d'Édipe semble conjuré, hein, puisqu'il est non seulement adopté par un roi, mais destiné à lui succéder. Le roi l'élève comme son propre fils, mais au cours d'un repas, un esprit malveillant émet des doutes sur sa naissance. Il parle de lui comme un enfant trouvé. Et là, Édipe se rebiffe et s'interroge. Est-ce que je suis bien le fils de mon père? De qui suis-je né? Il est ébranlé et ses parents adoptifs ont beau le rassurer, il décide de savoir. Il décide de savoir et c'est une constante dans ce personnage qui participe à son propre destin parce qu'il réalise son destin en voulant toujours connaître ce qui l'attend. Et il provoque du même coup ce destin. Donc il part à Delphes hein, pour savoir évidemment de qui il est le fils et quel est son destin. Et l'oracle de Delphes se contente de lui répéter la prophétie. Il est ébranlé et il décide de ne plus jamais revenir à Corinthe pour ne pas avoir à tuer Polybe et à épouser sa mère Mérope qui est déjà assez âgée. Donc il s'enfuit hein, et sur son chemin, il rencontre un homme monté sur un char avec une petite troupe, ils sont cinq, qui refuse de lui céder le passage. Et dans la querelle qui suit, il tue l'homme, sans savoir évidemment que c'est Laios, que c'est son père. Donc, vous voyez l'ironie, ce qu'on appelle l'ironie tragique, hein, en voulant fuir son destin, il le réalise une fois de plus. Et parvenu aux portes de Thèbes, eh bien, il affronte la Sphinge, parce que la ville est menacée, enfin, est comme plombée par la présence de cet être mythologique, hein, qui a des ailes de rapace, et qui pose des énigmes aux gens, et si les gens sont incapables de répondre à son énigme, bien, elle les tue. Donc évidemment, il y a sept portes à Thèbes, mais elle se trouve là, vous voyez, hein, et il est évident que on n'a pas envie d'entrer à Thèbes, et puis surtout, c'est désespérant de ne pas pouvoir répondre à la question. Or, Édipe, lui, répond à la question, cette question, vous la connaissez, je suppose, hein, qu'est-ce qui, le matin, à quatre pattes, le petit la connaît, à midi sur deux pattes et le soir sur trois pattes. Bon, la réponse c'est l'homme, puisque à quatre pattes c'est l'enfant, sur deux pattes c'est l'homme adulte et sur trois pattes c'est le vieillard avec une canne. Donc, Édipe répond à la question, du moins croit répondre, et le monstre se précipite du haut d'un rocher et voilà la ville de Thèbes débarrassée de ce fléau. Par conséquent, il est accueilli en libérateur dans cette ville dont le roi vient de mourir et qui est accablé par ce fléau, eh bien, il est le sauveur, il est le roi désigné, adopté. Hein, et il devient roi immédiatement. Hein, alors, c'est ce qu'on appelle le tyrannos en grec, mais le tyrannos, ce n'est pas le tyran au sens où on l'entend, c'est le roi qui est acclamé, qui est voulu par le peuple. Ce n'est pas le tyran, il y a un autre terme qui s'appelle Basileus pour ça, pour désigner le tyran au sens moderne. Donc, il est accueilli en libérateur, en tyrannos, il devient roi, et il épouse Jocaste, dont il a quatre enfants, hein, Éthéocle et Polynice, dont on parlera, Antigone et Ismène, deux filles, Hein, et tout semble bien aller dans la ville d'abord, qui a retrouvé la paix, le calme, la prospérité, et dans la famille, puisque une famille unie, Jocaste est très contente son mari. Or, les années passent, et bien des années plus tard, une peste s'abat sur la ville, les enfants sont déjà grands, hein, une peste s'abat sur la ville. Et c'est là que commence la pièce de Sophocle. Donc, là, je vous ai raconté le mythe, et la pièce de Sophocle commence à ce moment-là. Et une délégation de Thébains, conduite par le prêtre de Zeus, se présente au palais et supplie Œdipe d'intervenir auprès des dieux pour faire cesser la peste qui désole la ville. Le cœur s'exprime ainsi, enfin les Thébains s'expriment ainsi, va, redresse la cité, va, assure à jamais l'avenir de notre ville. Hein, et quand Œdipe leur répond, il les appelle mes enfants, mes enfants. Hein, autrement dit, il est comme un roi avec ses sujets, comme un sauveur qui déjà a sauvé la ville une première fois et qui est prêt à recommencer. Et comme tous les politiques, il a anticipé, hein, il répond qu'il a déjà envoyé son frère Créon à Delphes dans ce sens. Et au moment où, justement, il annonce, il donne cette nouvelle rassurante au peuple, la réponse viendra de Delphes, Créon revient de Delphes, et il annonce que l'oracle a dit qu'il fallait purger la ville de la présence entre ses murs du meurtrier de l'Aios. Le meurtrier de l'Aios vit en ville, il vit parmi les Thébains, personne ne l'a jamais recherché, et c'est parce que ce meurtre n'a pas été puni que la peste sévit dans la ville. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé le meurtrier, la peste continuera de sévir. Œdipe se pose évidemment en roi, en sauveur, et il reconnaît son erreur, effectivement. Il est arrivé porté par l'enthousiasme populaire, il n'a même pas pensé à enquêter là-dessus, et il s'engage solennellement à retrouver le meurtrier de l'Aios. Et le cœur, je vous ai parlé du cœur qui orchestre, qui chante, eh bien, il invoque le secours des dieux. Dans une telle épreuve, il faut bien que tout le monde s'y mette et que les dieux soient favorables. Donc, Œdipe revient, et pensez au plan du théâtre, il s'adresse au public. Hein, que le public se dénonce. Si le coupable est là, qu'il se dénonce. Et moi, Œdipe, je le trouverai. Et moi, Œdipe, je le condamnerai, je le proscrirai. Donc, je vais appliquer la sentence et enfin, ce meurtre sera réparé. Le cœur suggère d'interroger le devin Tirésias. Qui est Tirésias? C'est un vieillard. Alors, il a son histoire. Hein, il vit dans le mont Citéron, dans ce lieu où tout se passe, justement, ce lieu des forces vives, des forces de la nature. Et un jour, il croise deux serpents qui sont en train de se battre. Il les sépare et il devient une femme. Bon. 3 ans après, ou quelques années après, il repasse dans cette forêt du Citéron, il retrouve deux serpents qui se battent, il les sépare et il redevient un homme. C'est le premier trans, hein, mais réversible. Et quand les dieux de l'Olympe se discutent, parce que les dieux de l'Olympe s'ennuient, ils parlent beaucoup des problèmes des hommes, et ils se demandent qui de l'homme et de la femme éprouve le plus grand plaisir sexuel. Comment savoir? Et les dieux ne savent pas, et on demande à Tirésias, puisqu'il a été homme et femme. Et Tirésias se scandalisera en disant que c'est la femme qui jouit 9 fois plus que l'homme dans l'acte sexuel. Et Héra est furieuse, et elle punit Tirésias en le frappant de cécité. Et Zeus, pour compenser, lui donne le don de divination. Donc Tirésias, vieillard, devin, aveugle mais devin, est le seul, et en plus il est ancien, il connaît tout ça, et est le seul à pouvoir dire qui a tué l'Aios. On convoque Tirésias qui arrive avec sa canne, son regard aveugle, et il refuse de répondre. Il refuse de répondre, et Œdipe se met en colère, hein, et le met en demeure de dire qui a tué l'Aios. Et il s'oppose à lui, il dit, moi j'ai résolu l'énigme de la sphinx, hein, et je ne suis pas devin, et toi qui prétends être devin, tu n'es pas capable de nous dire qui a tué l'Aios. Et Tirésias, à ce moment-là, au comble de la colère, explose, et dit à Œdipe, tu es toi-même le meurtrier que tu recherches. Et non seulement tu es le meurtrier que tu recherches, mais tu as un commerce infâme avec ton épouse. tu es à la fois parricide et inceste. Édipe est indigné, n'accepte pas cette vérité, et il chasse le devin. Et le cœur est très ému, et il garde sa confiance en son roi. Mais c'est là que se déclenche ce que Cocteau a appelé la machine infernale, on n'arrête pas le destin, hein, puisque tout est mis en place pour la révélation progressive de sa situation. La colère d'Édipe se retourne contre Créon, qu'il accuse de comploter contre lui. Et Jocaste les calme, et Créon se retire. Il est donc face à la reine, et la reine qui veut rassurer son mari. Elle lui dit, il n'y a pas de raison, les oracles se trompent toujours. Et elle le met, mais en voulant le rassurer, elle le met dans la pire angoisse en lui révélant les circonstances de la mort de Laïos. Ce sont précisément celles de la rixe mortelle qu'il a eue avec un inconnu, après avoir quitté ses parents pour déjouer la prédiction de Delphes, pour ne pas être parricide et inceste. Comment savoir ? Il y a un survivant qui a échappé à la lutte entre Laïos et Édipe, et ce survivant, dit Jocaste, se cache depuis que tu es arrivé. Il a demandé à se cacher, à vivre loin de la ville. Alors on le demande, évidemment, et le cœur est inquiet à ce moment-là. Le cœur est inquiet, hein, d'autant que Édipe, dans un long récit qui intéressera Freud, parce qu'il y verra l'ébauche de la confession, de ce qu'on fait en psychanalyse, où on se raconte, un long récit, donc, et il raconte comment il a tué tout le monde, comment ça s'est passé. Il y a une seule incertitude, la version officielle, Laïos a rencontré une troupe, et en réalité, Édipe était seul quand il a affronté Laïos et la troupe qui l'accompagnait. Arrive à ce moment-là un messager de Corinthe. Et ce messager de Corinthe annonce la mort du roi Polybe. Et au grand soulagement de tous. Édipe, bien sûr, aimait bien Polybe, mais au moins, s'il est mort, il n'aura pas tué son père. Mais il redoute encore la prophétie en ce qui concerne la mère. Est-ce qu'il doit épouser sa mère? Est-ce qu'il va épouser sa mère? Et le Corinthien le rassure, croit le rassurer, en lui disant qu'il n'est pas le fils de Polybe et de Mérope, qu'il a été recueilli précisément par lui, le messager, qui est très âgé. C'est lui qui l'avait recueilli d'un berger qui allait l'abandonner sur le mont Citéron. Il l'a porté au roi de Corinthe, qui l'a adopté. Édipe est ébranlé, et Jocaste, à ce moment-là, voudrait qu'on en reste là. Mais Édipe, toujours dans cette curiosité, ce désir de savoir, Édipe veut faire la lumière sur sa naissance. Et malgré la vive opposition de Jocaste, il convoque le pape. Le cœur, à ce moment-là, exprime son espoir. Il espère qu'Édipe est le fils d'un dieu et d'une nymphe du Citéron. Ça sauverait tout le monde s'il avait cette origine magique. Hein, d'autant que Édipe craint que s'il est roturier, Jocaste soit humilié d'avoir épousé un roturier. Il ne pense absolument pas à cet arrière-plan. Et le serviteur, à ce moment-là, se présente et il finit par révéler que c'est lui, berger, qui a donné l'enfant à ce messager et que Polybe et Mérope ont ensuite adopté. Donc, petit à petit, et en même temps de façon brutale, l'évidence du parricide et de l'inceste éclate. Horrifié, Édipe rentre au palais. Et à ce moment-là, un valet vient annoncer que Jocaste s'est pendu. Et il annonce aussi qu'Édipe s'est crevé les yeux. Donc vous voyez que ça finit de façon épouvantable. Mais Édipe paraît à ce moment-là sanglant, éperdu. Il implore qu'on le chasse de ce palais et de cette ville qu'il a déshonorée. Créon prend le pouvoir. Il lui parle avec générosité, mais il attend l'avis de l'oracle de Delphes avant de statuer sur son sort. Édipe, accablé, rentre vers le palais en s'appuyant sur ses deux filles, Ismène et Antigone. Et on sait ensuite que, ça la pièce ne le dit pas, mais qu'il quittera la ville de Thèbes accompagné de sa fille Antigone qui va le suivre. On en parlera tout à l'heure. Mais j'en ai fini avec la pièce de Sophocle et j'en viens maintenant à son interprétation. Pourquoi justement ce mythe est-il resté si célèbre? Pourquoi nous parle-t-il encore? Et j'en arrive à plusieurs degrés d'interprétation, plusieurs interprétations. D'abord celle de Freud, Hein, j'en parlerai rapidement parce qu'elle est connue. Mais Freud, dans une lettre capitale, établit un lien entre le sentiment éprouvé pour la mère, qui correspond à l'éveil de son désir sexuel, et l'Édipe roi de Sophocle. Il a vu dans l'Édipe roi de Sophocle la première psychanalyse. Parce qu'au fond, c'est bien ce qui se passe. Hein. Édipe se découvre qui il est progressivement. C'est une sorte de psychanalyse avant la lettre qui est menée. Et il se reconnaît. Or, dans le théâtre d'Aristote, la reconnaissance est essentielle. Et là, elle est double. D'un côté, Édipe se reconnaît tel qu'il est. Il se voit parricide et inceste. Mais le spectateur lui-même s'identifie à cette compulsion. Tous reconnaissent qu'ils ont pu la ressentir. Il y a une phrase étrange de Jocaste, quand elle veut rassurer Édipe, elle dit « Chacun de nous a rêvé ces choses. Chacun de nous a rêvé qu'il tuait son père et qu'il épousait sa mère. » Il y a cette phrase étrange dans le discours de Jocaste. Donc l'auditeur, le spectateur, s'épouvante lui-même de son rêve devenu réalité. Donc il y a cette dimension, une reconnaissance qui a lieu sur scène, mais que le spectateur peut aussi éprouver de son côté. Où je retrouve la citation de Jocaste, « Tous les hommes ont en rêve partagé la couche de leur mère. » Donc, c'est un désir inconscient qui scie la tragédie, mais un jour. Il y a d'autres interprétations de ce mythe, notamment la question du temps. La question d'origine d'abord. Celle qui taraude Égiste et qui est à l'origine de cette curiosité, c'est « Qui suis-je ?» Et cette question « Qui suis-je ?» a pour corollaire la question « D'où suis-je né ? D'où est-ce que je viens ?» Mais elle devient plus complexe encore quand on voit l'ambiguïté d'Édipe. Quelle place occupe-t-il ? Et lui-même le reconnaît. Il prend la place de son père. Et il devrait mourir pour laisser la place à ses fils. Et il y a comme une tentative de nier la succession des générations. Puisqu'il tue son père, c'est le parricide. Il épouse sa mère, c'est l'inceste. Mais sa mère est sa femme. Et ses enfants sont ses frères et sœurs. On a pu dire qu'avec Édipe, le temps patine. Et ça renvoie à cette généalogie dont j'ai parlé. Et les noms, là, sont révélateurs. L'Abdakos, c'est le boiteux. L'Aios, c'est celui dont la démarche est gauche, dans la démarche est la maladroite. Et Édipe, le surnom d'Édipe, ça veut dire pied enflé. Et au fond, ce personnage qui boite, on voit que sa boiterie est symbolique parce qu'elle traduit le désordre, le déséquilibre qu'il introduit au sein des familles que sa claudication représente. Cette boiterie, elle est symbolique. Autre question, la dernière, c'est celle de la liberté et du destin. Et elle en recouvre une autre. Est-ce qu'il est innocent ou est-ce qu'il est coupable ? Innocent ou coupable, c'est la question constante de ces tragédies. Chez Sophocle, Jocaste met en cause la véracité des oracles. La vérité des hommes et celle des dieux sont incompatibles. Et pourtant, c'est le contraire qui se passe, puisque c'est en voulant fuir son destin qu'Œdipe le réalise. Au début de la pièce, il est au sommet de sa puissance, et ça se passe en quelques heures, au début de la pièce, il est au sommet de sa puissance. Et il attribue sa réussite à sa remarquable intelligence. C'est ce qu'il fait valoir devant Tirésias. J'ai résolu l'énigme de la Sphinx, et toi tu ne sais pas me dire, etc. D'où son mépris pour Tirésias. Il incarne donc la confiance absolue en la raison humaine, ce qu'on appelle l'hubris, la démesure. Mais au cours de la pièce, il admet que son pouvoir n'est qu'abjection, que sa réussite est un échec, et que sa clairvoyance est un aveuglement. Et c'est l'acte de se crever les yeux qu'il exprime, puisque tant qu'il a des yeux, il est aveugle, et une fois qu'il a perdu la vue, il voit clair en lui-même. Et c'est le sens de cette cécité. Et en cela, il rejoint paradoxalement le personnage de Tirésias. Tirésias, aveugle, mais qui voit plus loin que les autres, qui en sait davantage. Et il trouve la réponse à la question que lui posait Tirésias, « Sais-tu seulement de qui tu es le fils ?» Et ça renvoie, au fond, à la question que posait la Sphinx. à laquelle il a cru répondre. Qu'est-ce que l'homme ? Oui, il a répondu. C'est l'homme qui est comme ça. Mais derrière cette question, il y en a une autre. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Et cette question ne trouve sa réponse qu'à la fin de la pièce. Donc une pièce qui est à la fois construite comme une pièce policière, puisque de façon, et d'autres romanciers s'en serviront, mais celui qui mène l'enquête découvre à la fin de son enquête qu'il est le coupable, et comme une psychanalyse, puisque c'est en avançant dans la connaissance de son passé qu'Édipe se révèle à lui-même. Donc la modernité de cette pièce, évidemment, le montre, et c'est la déchéance d'Édipe, hein, puisque de Tyrannos qu'il était, il devient ce que les Grecs appelaient un pharmakos, c'est-à-dire un bouc émissaire, un bouc émissaire. Et à Athènes, on chassait d'Athènes un homme et une femme qui emportaient avec eux, symboliquement, les péchés de la communauté, en partant, en quittant ce territoire où il a régné. Édipe emporte avec lui sa faute et libère la ville qu'il a auparavant sauvée. On a d'ailleurs dans le langage tout un vocabulaire du renversement. Hein, Édipe, malgré lui, emploie un langage qui est double. Double, il en dit plus que ce qu'il voulait dire. Par exemple, quand il dit « Je ferai la lumière sur cet assassinat », on peut aussi comprendre « J'apparaîtrai criminel ». Le verbe a ce double sens. De la même façon, Édipe, pied enflé, oïda en grec veut dire « Je sais ». Donc, il y a beaucoup de mots comme ça, à double sens, qui montrent bien qu'en tenant un discours, il en tient, comme malgré lui, comme inconsciemment, un autre. Et ne reste de libre chez Édipe, au fond, que cette volonté de se révéler à lui-même, d'aller jusqu'au bout, et de s'appliquer la mesure qu'il a annoncée, hein, c'est-à-dire de s'exiler, de se proscrire, comme il avait prévu de le faire. Je ne parle pas d'Antigone, parce que c'est très connu, mais je parle de la troisième pièce de Sophocle, il y a une trilogie, hein, Édipe au roi, Antigone et Édipe à Colone. Je passe directement à Édipe à Colone, qui est la dernière pièce de Sophocle, la dernière pièce qu'il a écrite. Il avait 80 ans, et pour l'anecdote, ses enfants voulaient le mettre sous curatelle, décider qu'il était incapable de gérer ses biens, il faut dire qu'il en avait, donc ça intéressait les enfants. Et quand la question s'est réglée au tribunal, Sophocle est arrivé au tribunal avec le texte de la pièce Édipe à Colone, et il a lu le texte de sa pièce en demandant au juré, est-ce que vous croyez qu'un homme qui a écrit ça a perdu la raison, a perdu le sens ? Donc il a été acquitté et il est rentré dans ses biens. Mais je reviens à Édipe à Colone, c'est la dernière pièce de Sophocle, donc Édipe accomplit le chemin inverse. Cette fois-ci, aveugle, apatride, il va vers Athènes. Il va vers Athènes, c'est Antigone qui le guide, puisque elle est son bâton de vieillesse. Et là, un destin, à Delphes encore, a dit que son corps porterait bonheur à la cité qui le contiendrait, qui l'enterrerait. Donc, tout le monde rapplique, Créon, Éthéocle, Polynice, tout le monde veut évidemment récupérer le corps d'Édipe pour pouvoir combler la ville de bienfaits. Évidemment, Édipe refuse de revenir à Thèbes et demande la protection de Thésée. Thésée, qui est le roi d'Athènes, et Thésée prend Édipe sous sa protection et le fait pénétrer dans, on verra tout à l'heure ce que c'est, le jardin des Euménides. Le jardin des Euménides, et quand Thésée revient, il est seul, et on n'a jamais retrouvé le corps d'Édipe. Il y a là quelque chose comme une question, hein, et Édipe s'est défendu dans ses dernières interventions en disant « Oui, je suis coupable, oui, je suis coupable, j'ai commis l'irréparable, j'ai commis des actes monstrueux. Mais je suis innocent, parce que je ne le savais pas, parce que je ne le voulais pas, etc. » Et il y a là comme une sorte d'incertitude, hein, si on ne retrouve pas son corps, c'est que probablement il a rejoint les dieux. Il a rejoint les dieux. Donc dans Édipe roi, il est au-dessus et au-dessous de l'homme. Au-dessus, c'est le sauveur, c'est celui qui résout les énigmes. Au-dessous, c'est le parricide et l'inceste, c'est le monstre. Mais dans Édipe à Colone, on ne retrouve pas son corps. Est-il devenu un dieu ? On peut le supposer, on peut le penser. En tout cas, il est ce qu'on appelle sacré. Il est sacré, il est devenu sacré. Il échappe à l'homme, son sort, est maintenant au-delà de nous, en dehors de nous. Alors je passe à la famille des Atrides. Hein, donc on change de famille, on change d'arbre généalogique. Hein, et là, on arrive à Atrée, hein, qui appartient à une lignée assez, assez monstrueuse aussi. Hein, puisqu'il y a eu le supplice de Tantale, il y a eu le repas des Atrides, bon, je passe là-dessus, pour retenir simplement que Égiste descend de Pélops, hein, il est le fils de Thieste, et il deviendra l'amant de Clytemnestre. Et Agamemnon et Ménélas descendent d'Atrée, et Agamemnon est l'époux de Clytemnestre. Et Agamemnon a 3 enfants, Oreste, Iphigénie, Électre. Donc vous connaissez le sujet de la guerre de Troie. Agamemnon a offensé Artémis en disant qu'il était meilleur qu'elle à la chasse. Bon, acte d'hubris, acte de démesure, acte immédiatement puni par les dieux. Et Artémis s'entend avec Poséidon et Éole pour que la flotte grecque ne puisse appareiller vers Troie. Et Agamemnon doit sacrifier sa fille Iphigénie pour que l'expédition militaire des Grecs soit possible. Elle dure 10 ans, et Clytemnestre, pendant ce temps, médite sa vengeance pour punir Agamemnon, évidemment, de cet acte monstrueux. Et elle prépare cette vengeance en prenant comme amant Égiste. Et quand Agamemnon arrive glorieux de son expédition, 10 ans après, il arrive avec Cassandre. Cassandre, hein, qui est prophète aussi, mais une prophète que personne n'écoute, et tout au long du trajet, elle dit à Agamemnon, tu vas mourir, ta femme veut se venger, hein, tu lui as pris sa fille Iphigénie, tu vas mourir. Et Agamemnon se laisse piéger par Clytemnestre, qui l'accueille de façon solennelle, qui déploie le tapis rouge, et le tapis rouge, c'est s'égaler aux dieux dans la mythologie grecque. Et quand il arrive dans la salle de bain, froidement, elle le tue, hein, c'est une façon très efficace de débarrasser d'un tyran, c'est de le faire dans la salle de bain, parce qu'il est sans armes et ne peut pas se défendre. Donc, vous voyez ici une gravure du 19e siècle, hein, où on voit Clytemnestre hésitant à frapper, et Égiste, qui est toujours représenté comme un lâche dans les tragédies, pousse Clytemnestre à accomplir cet acte. Mais évidemment, on est là dans la première pièce d'Échille, Agamemnon, et Clytemnestre est horrifiée par ce qu'elle vient de faire, mais en même temps elle l'a fait, hein, et elle a écarté Oreste, qui est le seul à pouvoir venger Agamemnon, mais elle sait que le sang d'Agamemnon crie vengeance. Donc elle envoie régulièrement des libations, elle envoie des sacrifices pour apaiser la colère de son mari, mais Électre, qui est sur place, va régulièrement sur le tombeau de son père, et mutuellement les deux âmes se rencontrent, et la colère d'Agamemnon pénètre Électre, et elle fait qu'elle est habitée par la haine. Mais il lui manque un bras, hein, et ce bras, c'est évidemment Oreste, qui a été éloigné et qui revient. Et un jour, justement, Clytemnestre a fait un rêve prémonitoire. Elle a rêvé que la vengeance s'approchait, et elle a demandé à sa fille Électre d'aller, et c'est la deuxième pièce d'Échille, les Coéphores, d'aller porter des libations pour apaiser la colère de son mari. Et quand Électre arrive, elle voit une boucle de cheveux qu'elle reconnaît être les mêmes que les siens, une trace de pas qu'elle reconnaît être la même que son propre pied. Et elle se doute, elle a maintenant la certitude même, que son frère est revenu. Et son frère apparaît, se fait reconnaître, et les deux montent sur le tombeau du père sont comme habités par un désir de vengeance, puisqu'on est dans cette logique qui est la loi du talion, le crime appelle le crime, la vengeance appelle la vengeance. Et ils mettent en place une scène. Électre annonce à Clytemnestre que son fils Oreste est mort et que l'étranger qui est là et qui porte une urne lui porte les cendres de son frère. Clytemnestre le reçoit et feint la douleur comme elle avait feint la joie quand son mari était revenu, hein, mais ça permet à Oreste de s'introduire dans le palais et de massacrer Égiste et Clytemnestre chacun son tour. Là encore, donc, la pièce finit de la même façon, hein, par un meurtre. Aux cadavres d'Agamemnon et de Cassandre répondent maintenant les cadavres d'Égiste et de Clytemnestre. Mais on est dans cette logique. Hein, comment faire? Comment va le sang appelant le sang, le crime appelant le crime? Cette vengeance doit se poursuivre. Et c'est maintenant le sang de Clytemnestre qui crie vengeance. Et c'est là qu'apparaissent les Érinies. Les Érinies, vous voyez donc ce vase de 380 avant Jésus-Christ, donc il est presque contemporain des pièces d'Eschyle. Et vous voyez Oreste ici, avec son arme, et qui est poursuivi par les Érinies, qui portent des torches et surtout des serpents. Alors ces Érinies, ce sont des créatures infernales, issues des enfers, qui réclament justement que le crime soit puni. Elles sont l'expression de la loi du talion. Le sang appelle le sang, le crime appelle le crime, et puisque Clytemnestre a été assassiné par son fils, eh bien, il faut que ce crime, à son tour, soit puni, et comme il n'y a personne pour le faire, c'est aux Érinies de l'exiger. Donc s'ensuit une course de vitesse, puisque les Érinies poursuivent Oreste, qui essaie d'échapper à leur vengeance. Alors elles sont trois, l'une s'appelle la vengeance, la haine, l'autre l'implacable, ils ont ces noms-là. Et elles sont assez épouvantables, donc quand elles apparaissaient derrière le portique, elles glaçaient le public, qui était effrayé de les voir apparaître, ces créatures monstrueuses avec des serpents. Bon, les Grecs savaient très bien faire ça, mais les auteurs modernes aussi, vous voyez comment elles sont représentées au XIXe siècle. Oreste est poursuivi par les Érinies, vous voyez, on les voit avec leur... Et une autre, c'est Anne Hennequin, et là, elles expriment le remords d'Oreste, donc sous une forme symbolique, évidemment, cette fuite en avant d'Oreste, c'est le remords qui l'habite et qui l'amène à cette course. En tout cas, la troisième pièce, qui s'appelle Les Euménides, donc Agamemnon la première, les Coéphores la deuxième, et les Euménides la troisième. Pourquoi les Euménides? Les Euménides, ça veut dire les bienveillantes, et on parle des Érinies, qui veulent dire les méchantes, les furies, les harpies. Donc, il s'est bien passé quelque chose, et ça se passe effectivement à deux endroits. Le premier, c'est Delphes, toujours Delphes, Lapithi se trouve sur le parvis du sanctuaire de Delphes et elle aperçoit, bouleversée, un suppliant couvert de sang. Un suppliant couvert de sang qui est cerné par un hideux essaim de monstres endormis. Voilà les Érinies. Le temple s'ouvre et Apollon, qu'on appelle aussi Loxias, alors Apollon a trois noms, Phébus, le dieu du soleil, Apollon, et Loxias, ça veut dire l'oblique, c'est celui qui énonce les présages à Delphes, mais d'une manière toujours cryptée, toujours, voilà, d'où le nom d'oblique. Il faut les interpréter. Donc, Apollon entre, et il est dans une situation un peu difficile, parce que c'est lui qui a dit au reste d'aller accomplir sa mission, mais de l'autre, il doit protéger Oreste maintenant, alors que les Érinies sont sûres de leurs droits. Le crime appelle le crime, elles ont, un peu comme des vampires, elles ont besoin du sang d'Oreste, puisqu'il a versé le sang de sa mère. Donc, et voilà d'ailleurs comment un vase de l'époque le représente. Alors vous voyez ici Oreste, là vous avez l'Omphalos, qui est... et puis là vous avez Apollon, qui purifie Oreste avec le sang d'un porcelet. Donc pour Apollon, Oreste est purifié. Et derrière, Artémis. Alors Artémis est toujours en arrière-plan, dans la trilogie d'Eschyle, parce que c'est la déesse de la nature, c'est la déesse... Donc elle est là, toujours présente, et c'est elle qu'Agamemnon avait défiée au départ. Et puis on voit ici les Erinyes, qui cette fois-ci ne sont pas avec des serpents, mais avec des bretelles croisées. Alors deux sont là, endormies, et une autre semble surgir des enfers, tandis que l'ombre de Clytemnestre est là, qui veut les réveiller, qui veut leur rappeler leur mission, qui est de venger la mort de Clytemnestre. Donc cette scène est très forte du point de vue symbolique, et Oreste doit quitter Delphes, hein, pour aller demander à Athéna, qu'on appelle Pallas, de le protéger. Donc la scène suivante se passe à Athènes, sur l'Acropole, et Oreste, cette fois-ci, se jette aux pieds de la statue de Pallas, et aussitôt, les Furies viennent l'assiéger. Longue danse de mort du cœur, car cette fois-ci, le cœur est composé par les Erinyes, hein, qui veut le sang d'Oreste, qui exige que la loi imprescriptible du sang versé soit appliquée, et Athéna, comme tout à l'heure Apollon, paraît, et elle interroge les Furies, les Erinyes et Oreste. Et devant cette situation, et c'est là ce qui est important, elle décide que le débat entre cet homme et les divinités infernales et les divinités apolliniennes, que ce débat sera tranché par les Athéniens eux-mêmes. Ce sont de sages Athéniens qui vont écouter les parties et qui vont décider ensuite. Le cœur proteste, ce sont les Erinyes, parce qu'il y a une justice sacrée qui règne de tout temps, qui est celle de la vengeance, qui est celle de la loi du talion, et il faut que cela soit appliqué. La séance s'ouvre, Oreste est interrogé, comme au tribunal, c'est un tribunal. Apollon, qui est le premier avocat du monde, c'est un dieu, c'est Apollon. Apollon plaide en sa faveur, hein, en disant que, bien sûr, il a fait ce qu'il devait faire, mais il n'avait pas le choix. S'il ne l'avait pas fait, la ville d'Argos aurait été détruite comme celle de Thèbes. Donc, les Erinyes, bien sûr, plaident leur cause, et Athéna, avant que le juré ne délibère, dit au tribunal que leur décision est importante pour la suite des âges. Et elle-même vote, et elle vote pour l'innocence d'Oreste. Le vote a lieu, 5 voix pour la culpabilité, 5 voix contre. Autrement dit, il est innocent et il est coupable, il n'est pas innocent, il n'est pas coupable, mais comme Athéna a mis son poids et sa voix dans la balance, c'est l'acquittement qui s'impose. Il ne peut pas y avoir de châtiment puisqu'il y a égalité de part et d'autre. Et la clémence l'emporte sur la sévérité. Indignation des Furies. Les Furies, bien sûr, sont dépouillées de leurs prérogatives. Et Athéna tente de les convaincre. Et plus elle essaie de les convaincre, plus elles sont en colère. Elles veulent le sang. Et Athéna finit par leur proposer un pacte d'amitié. En échange des grands honneurs qu'elles recevront, elles deviendront les Euménides. Elles ne s'appelleront plus les Erinyes, mais les Euménides, et assureront le bonheur de la cité. Elles acceptent enfin, et la pièce s'achève dans la paix et dans la joie. Le peuple athénien installe les Euménides dans leur sanctuaire. Alors voilà une représentation scolaire du XXe siècle qui est amusante, parce que en 1930, tous ces sujets étaient très familiers des élèves, hein, et vous voyez comment vous avez l'Acropole au fond, on est sur l'Aréopage, hein, et vous avez ici Athéna ou Pallas en majesté, le cœur, les Erinyes ici avec leur tête de serpent, Oreste qui est tout petit, accablé par ce qu'il a fait, et le grand Apollon qui le défend. Vous voyez, donc il est pour le meurtre de Clytemnestre. Hein, et Apollon le défend, les Furies l'accusent, et on a bien la structure d'un tribunal. Et on voit aussi que le tribunal, que la justice est une scène. Le premier procès, au fond, il a lieu au théâtre, et le théâtre s'en inspire, puisque ne sais pas si vous assistez à des procès, mais ça, c'est une scène, c'est une pièce de théâtre qui est jouée, hein, dont on ne connaît pas l'issue, évidemment. Mais il y a quelque chose de théâtral. Mais en tout cas, l'institution d'un tribunal populaire permet de sortir du cycle des vendettas. On est dans la justice et non pas dans la vengeance. Il y a un vote qui fait suite à une délibération et à une décision. Les dieux s'effacent et c'est la justice des hommes qui s'impose, hein, et cela dans un cadre qui est la justice. Et en même temps, les Euménides sont là, c'est-à-dire qu'elles sont devenues bienveillantes, mais à condition que la justice soit respectée. Si les normes ne sont pas respectées, elles peuvent se réveiller et le désordre s'installer dans la cité. Voilà pourquoi Athéna met en garde contre l'anarchie et contre le despotisme. Contre la démesure, c'est aux hommes de trouver leur façon de vivre, de se régler. C'est le règne de la, c'est l'instauration, pas le règne, c'est l'instauration de la démocratie, un équilibre fragile, un équilibre précaire, mais les dieux se sont effacés pour laisser la place aux hommes. Et pour conclure, je vais lire, j'ai trouvé ça dans le journal La Croix il y a quelques jours, donc j'ai trouvé que ça illustrait bien cela. Quelqu'un qui explique justement ces pièces à ses étudiants, il s'appelle Sharif Majdalani, et il le fait au Liban, il explique ça au Liban. Ce que nous tentons en étudiant les textes d'Eschyle et de Sophocle, c'est de comprendre ce que nous disent ces auteurs sur l'individu confronté aux impératifs de la citoyenneté et de la justice sur les modes de gouvernance démocratique. Autrement dit, nous réfléchissons sur le monde contemporain et ce qui menace nos démocraties. Donc, le mythe, dans la tragédie, c'est l'instauration de la démocratie. Mais on écrit toujours en marge des vieux livres, et ces pièces anciennes continuent de nous parler à travers les figures tragiques qu'elles ont su présenter. Merci.
On est tout ému, je crois.
Ah.
Ah si, moi.
Accablé. Ouais.
Non, oui, mais c'est vrai. Tu as trouvé le moyen de nous parler de l'Antiquité, de philosophie, de société, à travers ces mythes très importants dont nous avons compris la valeur et l'enseignement qu'elles nous donnent.
Ben, merci.
Et tu as quand même terminé par la démocratie.
Ben, c'est ce
bravo.
C'est ce qui est représenté.
Oui. Bravo. Et tu es sorti par la porte et rentré par la fenêtre, toi. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez, après cette très brillante conférence, quelques questions à poser.
Juste une remarque, plus qu'une question, si je peux me permettre. C'est à la fois fascinant de voir des textes vieux de 25 siècles nous parler à ce point, mais c'est aussi un petit peu affligeant de voir que les problèmes de gouvernance qui se posaient il y a 25 siècles se posent autant, avec autant d'acuité aujourd'hui. Aurait-on si peu évolué en 2500 ans ? C'est un peu triste quelque part.
Sans doute. Ça veut dire aussi que ça reste toujours un problème.
Quelque chose.
Trouver un équilibre.
Ah, dans Mireille, ça. Mireille, alors une question, Mireille.
On peut en poser trois.
Je voudrais savoir si, justement, là, à l'époque de la Grèce, de l'Antiquité, donc c'était ces mythes qui faisaient la cohésion de la cité, je voudrais savoir si, à l'heure actuelle, justement, ce n'est pas ça qui nous manque, des mythes qui, enfin, le récit national qu'on avait au XIXe siècle, par exemple, et que nous n'avons plus maintenant. Est-ce que ce n'est pas ça qui redonnerait de la cohérence à notre démocratie. Merci.
J'ai parlé des mythes fondateurs. Effectivement, une société se reconnaît dans des mythes qui sont fondateurs. Et Athènes, d'ailleurs, la démocratie n'a pas duré longtemps à Athènes. Et la tragédie non plus, 80 ans. Et effectivement, c'est un équilibre précaire, toujours instable, toujours menacé. Mais le mythe sert à la fois de repère, parce qu'il est fondateur, et de perspective. Parce qu'au fond, il donne des leçons dont on peut s'inspirer, c'est sûr, oui.
Est-ce que quelques religions ne seraient pas aussi des moyens de catharsis, et là, pas dans le bon sens ? Ça peut créer une espèce de cohésion.
Ah oui, quand... Ah oui, tout à fait, ça peut être... Le mythe fédère une communauté, elle s'y retrouve, mais effectivement, on le voit dans les Perses d'Eschyle. Dans les Perses d'Eschyle, où les Athéniens se régalent du désastre de leurs adversaires, oui, bien sûr. Mais, oui.
Bien.
Les mythes grecs ont cette particularité qui sont universelles. On sait, tout le monde s'y retrouve. Antigone, par exemple. Mais en même temps...
Juste une interrogation par rapport à la forme théâtrale. Est-ce que à Athènes, la forme théâtrale, c'était la tragédie ou il y en avait d'autres ? Plus tard, comme au XVIIe, par exemple, il y a eu la tragédie, mais il y avait aussi la comédie.
Oui, mais il y avait la comédie. Il y avait la comédie avec Aristophane. Aristophane qui lui transposait dans le dérisoire les questions de société, par exemple l'assemblée des femmes d'Aristophane, les femmes prennent le pouvoir. Donc la comédie est même une audace que n'a pas la tragédie, parce que la tragédie orchestre ce qui a eu lieu, ce qui a été répété, elle met en évidence les grands mythes, alors que la comédie c'est un peu comme Molière par rapport à Racine. Molière joue la société de son temps, Racine et Corneille la transposent dans l'histoire ou dans le mythe. Mais la comédie est peut-être plus engagée que la tragédie dans ce sens-là. Il y a notamment une pièce d'Aristophane, je ne sais pas laquelle,
où les
Socrate, oui peut-être, mais
c'est où pas Socrate, les oiseaux
peut-être, Socrate est pris à partie.
Oui.
Socrate est pris à partie
oui.
par les personnages, et Socrate se lève. Socrate se lève dans l'insistance, en sorte qu'il est la proie des colibés. Donc on joue au théâtre aussi les questions du temps. Oui. Mais c'est vrai que la tragédie a cet effet de les déplacer,
distancier,
de les déplacer, de créer une distance, oui. Mais pas la comédie.
Et la tragédie était dans la règle, c'est ça, et c'est ce que la comédie apparemment, les
oui.
Histoires de comédie essayaient de se combattre.
La comédie se libère, oui, mais oui, mais c'est les règles de la tragédie classique. C'est une interprétation qu'on fait de la poétique d'Aristote. Parce que dans les pièces, la règle des trois unités n'existe pas dans le théâtre antique. La preuve, dans l'Orestie, ça joue sur des années. C'est le théâtre français qui a forcé le texte d'Aristote. Aristote ne parlait que de l'unité d'action. Alors que les classiques français ont ajouté l'unité de temps et l'unité de lieu. Et ils l'ont tiré... Corneille, par exemple, avait beaucoup de mal. Parce que lui avait bien lu Aristote et il ne comprenait pas les reproches qu'on lui adressait. Mais il y a une unité d'action, elle est centrée sur un personnage, mais dans Édipe Roi, il y a une. C'est vrai que ça, c'est vraiment une tragédie modèle, parce que ça se passe en quelques heures avec une crise qui se noue et se dénoue, mais l'Orestie d'Eschyle se déroule sur des années.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez franchement très.